Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on se demande quels sont les grands ressorts de l'apprentissage chez les enfants. Comment améliorer leur capacité de raisonnement et de mémorisation? Comment leur transmettre le plaisir, le goût d'apprendre? Et puis surtout, comment les motiver? Avec nous pour répondre à ces vastes questions, Héloïse Lérété, rédactrice en chef du mensuel Sciences Humaines, et Olivier Houdet, professeur à l'Université Paris-Descartes Sorbonne. Questions, témoignages au 01 45 24 7000, Grand Bien vous fasse à radiofrance.com. Sans oublier notre page Facebook. Bonjour Julia Foyce.
Bonjour Ali, bonjour
Passons
tout le monde.
Passons genre, c'est tous les mercredis en fin d'émission, une chronique sévèrement burinée ce matin pour ne pas dire plus.
C'est exactement ça. Voilà, on va parler d'une sorte d'appendice, d'excroissance.
Voilà. À tout à l'heure, quel teaser.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et un premier témoin ce matin. Bonjour David.
Bonjour.
Vous avez 39 ans, vous êtes professeur de technologie au collège des Allières à Saint-Pierre-le-Moutier dans la Nièvre. Alors ça fait presque 3 ans que vous utilisez un jeu vidéo pour vos cours de technologie.
Oui, c'est ça exactement. Ça fait 3 ans que j'utilise donc du jeu vidéo pour certains niveaux en technologie.
Alors c'est Minecraft que vous utilisez, c'est l'un des jeux les plus populaires au monde. Quel est son principe ?
Alors c'est un principe assez simple, hein. Donc vous imaginez une grosse boîte de Lego et vous construisez ce que vous voulez.
Alors c'est un jeu utilisable de la maternelle à Bac plus 5, hein, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Alors de quelle manière utilisez-vous ce jeu dans vos cours ?
Alors pour moi, à mon niveau, on l'utilise sur les concepts de l'architecture. Donc ça permet de travailler sur les plans, les échelles, sur les matériaux. Donc on va pouvoir transposer tout ce qu'il y a dans le jeu pour le comparer à la réalité. Et après, on fait les rapports entre les deux, en fait.
Alors, quel est votre objectif en utilisant ce jeu vidéo Minecraft ?
La motivation, déjà. Donc, il fallait que le cours me plaise, il fallait que le cours plaise aux élèves. Donc, il fallait trouver un point commun. Donc, voilà, le point commun intergénérationnel, c'est le jeu vidéo à notre époque. Il y en a pour tous les âges. Donc, il fallait que j'en trouve un qui corresponde un peu à tout le monde.
Et vous constatez de véritables effets sur la motivation et l'apprentissage de vos élèves ?
Alors, sur la motivation, oui. Sur l'apprentissage, ben j'en ai du fait d'avoir plus de motivation, j'ai des élèves qui justement se passionnent un petit peu plus que d'habitude. Et après, ben, au niveau des résultats, je pense pas que ça soit quantifiable, mais ça se quantifie sur le plaisir de venir en cours en fait.
Bonjour Olivier Houdet.
Bonjour.
Auteur d'un Que sais-je sur la psychologie de l'enfant et auteur également d'Apprendre à résister aux éditions Le Pommier. Votre regard sur la méthode par le jeu utilisé par David ?
Alors ce que le professeur de technologie David vient de décrire est parfaitement cohérent avec les découvertes les plus récentes sur le cerveau. Et aussi avec les intuitions des grands pédagogues. Vous savez que Montessori, au début du XXe siècle, a préconisé le jeu plutôt que l'apprentissage classique. C'était un siècle avant la découverte du numérique, en quelque sorte, et des jeux. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans une société du jeu, et comme votre professeur l'a bien dit, autant pour les adolescents, les adultes, que les jeunes enfants, dès la maternelle. Donc, dans le cerveau, si vous voulez, dès l'instant où il y a jeu, il y a défi, et s'activent des régions émotionnelles, notamment le cortex préfrontal inférieur droit, qui est une région dédiée au lien entre émotions les plus basiques, celles du corps, et puis celles des sentiments, et intelligence, pensée, prise de décision. Et donc un cerveau qui est dans cet état émotionnel apprend, état émotionnel positif, apprend beaucoup mieux, beaucoup plus. Et le cerveau en permanence calcule un signal d'erreur, c'est-à-dire, parce qu'il faut bien sûr reconnaître ses erreurs, on ne gagne pas toujours au jeu, mais comme c'est du jeu, ce n'est pas grave de perdre. Donc il n'y a pas le traumatisme de la sanction, de l'erreur, dont on sait qu'elle peut conduire jusqu'à la phobie scolaire. Non, dans le jeu, on joue. Donc on peut se tromper. Et l'erreur est très importante pour la pédagogie, parce que le cerveau calcule en permanence des statistiques sur ce qu'il espère obtenir, et ce qu'il obtient de fait. Et ce signal d'erreur correspond à des circuits dopaminergiques du cerveau, donc dans la chimie de l'émotion, qui vont à ce moment-là éveiller, si vous voulez, tout le cortex préfrontal qui lui-même est impliqué dans l'abstraction, l'apprentissage et le raisonnement. C'est donc la meilleure voie pour éveiller le cerveau que de passer par le jeu.
Héloïse Lérété, rédactrice en chef de Sciences Humaines.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout à fait d'accord avec Olivier Houdet. Bien sûr, le jeu permet de stimuler le désir d'apprendre, hein, qui est vraiment la première chose qui compte, j'ai envie de dire, pour se lancer dans les apprentissages. Il permet aussi de développer la flexibilité mentale, la catégorisation, le dénombrement, de joindre la manipulation à la théorie, hein, ce que fait parfaitement ce professeur, on l'entend. Maintenant, je mettrai deux petits bémols. Le premier, c'est que tous les jeux n'ont pas la même valeur éducative, bien sûr. Et deuxièmement, Tout dépend aussi de la pédagogie qui accompagne le jeu. Et là, c'est le rôle, évidemment, du professeur.
David, comment est vue votre l'utilisation du jeu vidéo dans vos classes de technologie?
Bon, disons que ça passe plutôt bien. Les élèves sont plutôt ravis de venir. Donc, j'ai pas une adhésion à 100%. De toute manière, une adhésion à 100%, je pense que je n'aurai jamais. Mais l'adhésion est beaucoup plus forte qu'avant, quoi. Là où avant, technologie, c'était surtout associé aux garçons. Maintenant, j'ai plus l'association technologie égale garçon. C'est vraiment devenu mixte, déjà.
Merci beaucoup, David, pour votre témoignage. Alors, Olivier Houdet, rien ne vous amuse plus que de voir un enfant qui s'interroge, qui apprend. Vous aimez observer ce que vous appelez l'instant cognitif.
Oui, ben cet instant cognitif, vous le voyez dans le regard de l'enfant, dans cette lueur où il ressent qu'il s'est trompé. Et le professeur, moi je suis instituteur, doit vraiment, si vous voulez, privilégier cet instant cognitif et à ce moment-là, faire progresser l'enfant, lui faire entrevoir le chemin d'une solution. Il faut aider l'enfant, et en effet la pédagogie est très importante, à progresser. Par ailleurs, je pense qu'il faut ajouter au témoignage de tout à l'heure que si on veut vraiment faire aujourd'hui, en 2017, bientôt 18, une vraie science de l'éducation, il faut toujours, pour ces innovations pédagogiques, comparer avec un groupe contrôle qui a toutes les mêmes caractéristiques, mais qui n'utilise pas, par exemple, les jeux, faire un pré-test et un post-test, comme on le fait en médecine, pour la pharmacologie, par exemple. Donc, il faut une science de l'éducation. Et sans doute que ce professeur que vous évoquez a raison, mais si on veut vraiment le mesurer, il faut appliquer la méthode scientifique expérimentale que l'on doit à Claude Bernard au XIXe siècle, aujourd'hui, en sciences cognitives de l'éducation.
L'être humain commence à apprendre dès le ventre de la mère. In utero.
Oui, bien sûr, on a des données tout à fait scientifiques qui indiquent que, par exemple, les fœtus perçoivent la musique qui les entoure et reconnaissent cette musique après la naissance. De la même façon, certaines lumières, ça on le sait moins, peuvent traverser des ombres et des lumières, traverser la paroi abdominale et... par l'intérieur du corps, le bébé entend, et je vois une jeune mère ici, le bébé entend, ou vous a entendu à travers votre corps, les vibrations, mais entend aussi la voix du père, si le père se rapproche suffisamment du ventre de la mère. Donc, il faut en même temps faire très attention, parce que les bébés entendent beaucoup, ressentent beaucoup. Donc, arrivent déjà avec un bagage sensoriel et même cognitif à la naissance.
Est-ce que les circuits de l'apprentissage sont les mêmes, qu'il s'agisse d'apprendre à marcher, à lire, à calculer,
non,
à jouer?
Non, non, le cerveau est très spécialisé, il y a des circuits différents, mais qui sont connectés. Ce qui fait qu'en effet, un jeune enfant va très souvent marcher pour vouloir aller vers sa maman, ou pour vouloir jouer avec un frère ou une sœur qui est pas loin de lui. Donc ces circuits se connectent, mais chaque circuit est très spécialisé. Le cerveau est à la fois spécialisé et distribué en réseau. Un peu comme nous, finalement, dans le monde d'Internet ou dans les réseaux d'humains.
Héloïse Lhérité.
Oui, ça fait partie des grandes découvertes récentes, hein, d'ailleurs, des neurosciences cognitives. C'est toutes ces recherches sur la connectivité effective du cerveau. Avant, on pensait plutôt que les savoirs étaient distribués dans des zones qui étaient très localisées dans le cerveau. Aujourd'hui, on met à jour de véritables circuits et il faut bien reconnaître que c'est assez fascinant.
Alors... Il y a les deux, si vous voulez. Il y a la matière grise, qui sont les neurones et les synapses. Et puis, ces neurones et ces synapses, via des axones longs qui peuvent aller jusqu'à 10 cm dans le cerveau, envoient des informations et ces informations sont accélérées par la matière blanche qui entoure ces neurones qu'on appelle, qu'on voit aujourd'hui, des faisceaux. Et c'est ça le connectome ou la connectivité dans le cerveau humain.
Donc, alors, Héloïse Lhérité, vous évoquez dans Sciences humaines les grands piliers de l'apprentissage, hein, qu'il s'agisse de la motivation, de l'attention, du rôle des émotions. On y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on évoque quelques mythes qui ont encore la peau dure en matière d'apprentissage. Alors, je pense par exemple au fameux mythe Mozart.
Oui, bien sûr, il faut se méfier des neuromythes. Absolument.
Le mythe Mozart,
alors,
par exemple.
Le mythe Mozart, le mythe Mozart, c'est un mythe qui vient d'une étude qui a été menée dans les années 90 par une psychologue
Rocher.
Américaine. Voilà, Frances Rogers, qui avait fait une expérience sur des étudiants, dont elle tirait la conclusion qu'écouter Mozart, en gros, rendait plus intelligent. De là, ça a été diffusé largement dans les médias et on s'est mis à diffuser du Mozart, des sonates de Mozart dans les crèches, dans les maternelles, en se disant qu'on allait...
Ça ne peut pas faire de tort, cela dit.
Ça ne peut pas faire de tort, mais ça n'a pas forcément fabriqué non plus des génies, des architectes brillants. Simplement, On s'est rendu compte que ça reposait sur pas grand-chose parce que l'échantillon était trop faible et qu'on ne pouvait pas reproduire l'expérience.
Olivier Houdet, sur l'effet Mozart.
Oui, l'idée, alors attention, parce qu'on parle de neuromythe, ça devient un mythe que de parler de neuromythe. Et si l'on resitue l'importance des mythes dans l'Antiquité, ce fut quand même très fondateur de notre pensée. La science est évidemment différente des mythes, et pour un cas comme ça, il faut appliquer la méthode scientifique que j'évoquais tout à l'heure, un groupe contrôle, soit avec un autre compositeur, par exemple, ce qui serait intéressant.
Nirvana, ou du rap, par exemple.
Ou du rap, ou autre chose, une musique plus actuelle que je ne connais pas. Et néanmoins, on sait qu'il peut y avoir des passerelles dans le cerveau entre la musique et les mathématiques. Par exemple, Bach en était un grand exemple. Donc, ce n'est pas au nom de ce neuromythe qu'il faut balayer l'idée qu'il puisse y avoir des circuits de la musique et de l'apprentissage qui soient liés dans le cerveau. De là à dire que Mozart les a tous rendus intelligents, c'est évidemment une surgénéralisation que peut faire la presse ou même des scientifiques, parfois, qui exagèrent.
Donc, tout à fait. D'ailleurs, nous avons un très bon article de Laurent Bouvet sur les bienfaits de la musique sur le cerveau dans le numéro. Mais ça ne saurait se réduire à ce qui est tiré de cette étude, à savoir écouter Mozart rend génial. Il y en a beaucoup d'autres, des neuromythes. Bah, tout se joue avant 3 ans, par exemple. Bah, on sait que c'est quand même pas vrai. On sait même aujourd'hui, par exemple, qu'apprendre à lire et à écrire, ça se joue pas seulement en grande section CPCE1, mais ça se joue tout au long de la vie. Ou encore qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. C'est quelquefois des phrases qui sont vite balancées dans la presse, qu'on retient, dont on déduit des applications pédagogiques et qu'on ne peut pas, en fait, vérifier par des expérimentations répétées.
Olivier Houdet, il y a un neuromythe qui vous agace ?
Non, pas du tout. Moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions et c'est logique. Disons, cette fantaisie autour des neuromythes est corrélative du succès actuel des neurosciences et c'est parce qu'un domaine nouveau émerge que l'on s'inquiète, non pas des dérives des scientifiques eux-mêmes, elles peuvent exister mais elles sont rares, mais de la diffusion de ces connaissances.
Mais est-ce qu'on apprend mieux, par exemple, lorsqu'on reçoit l'information dans son style d'apprentissage favori, c'est-à-dire le style visuel, auditif, tactile ? Est-ce que c'est vrai, ça ?
Vous voyez, là aussi, ça ne peut pas se distinguer en vrai ou faux. Globalement, c'est vrai quand on caricature. Mais c'est un peu vrai dans la mesure où les différences interindividuelles, la variabilité est au fondement même de la biologie. On le sait depuis Darwin, c'est aussi vrai dans nos cerveaux et c'est aussi vrai dans nos comportements. Il suffit de nous observer autour de cette table. Alors, que les enfants puissent avoir une préférence pour un mode visuel et spatial pour certains, plus verbal pour d'autres ou plus graphique. On parlait d'architecture tout à l'heure. Je crois que ceux qui ont choisi l'architecture avaient quand même un certain goût pour le tridimensionnel, le graphique, le visuel. Donc, il faut tenir compte de ces différences sans caricaturer avec l'idée d'enfermer des enfants dans leur style, ce qui est la pire erreur. Dans mon livre « Apprendre à résister », je dis précisément qu'on doit résister à ces automatismes pour être intelligent. Donc, résistons à son style pour aller plus loin.
Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Cette émission est préparée par Alexia Rivière, Claire Destacan et par notre journaliste Théo Denmat, avec l'aide d'Antoine Vandeville. Et c'est réalisé par Eric Lenné qui m'a tout appris.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître.
C'est les azous,
c'est les azous.
Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales,
avec un veston qui descend jusqu'aux genoux,
les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale.
Voilà les azous,
voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier.
Moi je le suis déjà à moitié.
À votre tour, âme de césure.
Vous serez tous azous comme nous, car le zazou c'est contagieux.
Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement.
Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage
un particulier coiffé d'un fromage mou,
tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou.
Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère,
mais malheureusement il ne reste que les trous,
ne supposez pas qu'il fût de la cafetière.
Il est zazou,
il est zazou.
Il y a des zazous dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra.
À son futur gendre avant-hier, ma concierge
disait, voyez-vous, ma fille est un bijou.
Elle est encore mieux que si elle était vierge.
Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car
qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout.
Je suis quelque chose de beaucoup plus rare.
Je suis azou, je suis azou.
Et des azous dans mon quartier.
Moi, je suis déjà à moitié.
Un de ces jours, ça vous prendra.
Ouah, ouah, de zizi, de.
Ouah, ouah.
la société devant payer sa dette.
Devant la guillotine, Jajan y dit je m'en fous.
Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Zazou, je suis Zazou. Avec une mondaine de la place Pigalle.
Mon ami Léon a fait les 400 coups.
Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles.
Il est Zazou, il est Zazou. Il y a des Zazou dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié.
Et à mon tour un de ces jours,
on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazou on s'y retrouvera.
Car c'est fou ce qu'on rigolera.
Quand sur les douches on chantera comme ça. Voilà tout de suite.
Brigitte Fontaine et M, il y a des Zazou. Il y a des Zazou autour de la table ce matin.
Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui?
Vous réviserez les 20 questions à la fin du chapitre 1 pour lundi.
Non.
Grand bien vous fasse.
C'est un grand malade mental.
Sur France Inter.
10h23 et ce matin on s'intéresse aux grands ressorts de l'apprentissage. Alors parmi ces grands ressorts, les émotions. Quel rôle jouent les émotions dans les apprentissages, Olivier Houdet? Est-ce qu'un enfant apprend mieux quand il prend du plaisir?
Oui, c'est certain. Il y a vraiment un circuit de la récompense et du plaisir dans le cerveau qui vaut pour tout, pour les autres plaisirs, mais aussi pour l'apprentissage. Et nous, dans mon laboratoire du CNRS, on a vraiment identifié cette région et ce circuit. Il faut donc là stimuler par le jeu ou par autre chose que le jeu. De surcroît, et votre professeur l'a évoqué, un enfant qui est heureux d'apprendre et qui a du plaisir s'autodiscipline. Et ça règle automatiquement les problèmes de discipline. Ce n'est pas facile à mettre en place, mais c'est une autre pédagogie que celle d'une pédagogie magistrale avec tous les enfants qui, sans plaisir, doivent apprendre en même temps. Il faut du travail de groupe, du jeu, et l'enfant, pour le coup, s'autodiscipline. Les profs n'osent pas, mais doivent essayer.
Alors, tous les enfants prennent-ils naturellement du plaisir à apprendre ou faut-il stimuler une étincelle de curiosité pour tenter d'inculquer une compétence, comme le rappelle le psychologue cognitiviste et neuroscientifique Stanislas Dehaene dans Sciences Humaines?
Oui, bien sûr, hein, Stanislas Dehaene dit qu'il y a urgence même à rétablir le plaisir à l'école. Tous les enfants n'ont pas un plaisir à apprendre. Les neurosciences peuvent nous en parler parce qu'ils travaillent notamment sur le système dopaminergique, qui est justement ce qui irrigue le cerveau quand on apprend, hein, qui est cette hormone, la dopamine, qu'on retrouve dans les addictions, par exemple. Donc il y a aussi une addiction au plaisir d'apprendre qu'on peut ne pas avoir, ou plus ou moins.
Ce sont les chercheurs.
Voilà, mais il y a aussi les pédagogues dont il faut parler sur ce terrain-là, parce que tout leur problème est là, c'est comment faire boire un cheval qui n'a pas soif, comment stimuler le plaisir d'apprendre chez des enfants qui sont éloignés des savoirs.
Olivier Houdet.
Je vais vous dire deux choses. Moi, j'ai le souvenir de classes freinées que j'ai faites comme instituteur. Mon souvenir le plus fort, c'est le début de la journée. On réunit les enfants en cercle, par exemple en grande section de maternelle, mais ça peut se faire après, sur un tapis. Et chacun, pendant 10 minutes, cela suffit, raconte ce qu'il veut, ce dont il a rêvé pendant la nuit, ce qu'il a fait la veille. Et le prof a évidemment en tête les concepts, les programmes du jour, et part de ses récits pour construire quelque chose. Je voudrais simplement ajouter qu'il y a aussi des émotions autres que ces émotions de base. Nous, on étudie au labo le regret et l'anticipation du regret. On en reparlera peut-être dans la suite de l'émission. Je crois, moi, que l'urgence aujourd'hui est de faire à l'école une pédagogie du regret.
C'est-à-dire ?
Eh bien, le regret de ses automatismes, le regret de ses erreurs. Nous avons identifié une région du cerveau qui sous-tend ce regret et ça peut aller jusqu'aux questions pour l'adolescent de tolérance. Regretter un point de vue égocentrique, regretter un acte de violence. Ce matin, par une enquête chez vos confrères sur la violence à l'école, les micro-violences, il faut anticiper l'acte violent, l'acte automatique pour une erreur scolaire. Et le regret est ce qu'on appelle une émotion contrefactuelle, c'est-à-dire qui va contre les faits, contre le fait de frapper son petit copain ou contre le fait de répondre trop vite en lecture qu'un B, c'est la même chose qu'un D. Or, ce sont des lettres en miroir. Eh bien, il faut de l'émotion derrière cela. Et ça, c'est une émotion plus cognitive, un sentiment. Le regret sert aussi pour apprendre dès l'instant où on l'anticipe. Je parle bien de l'anticipation du regret.
Héloïse Lérité.
Oui, je pense qu'il y a aussi des sentiments comme la fierté d'avoir réussi,
oui,
quelque,
absolument,
chose d'un petit peu difficile, le sentiment de maîtrise, qui compte aussi beaucoup dans le désir d'apprendre. Et là, il y a beaucoup de choses du côté de la psychologie sociale aussi qui nous informent sur ces dimensions-là, qui procurent un sentiment de maîtrise, de fierté et donc de plaisir. Et je pense à Confucius qui disait celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Et c'est vrai que toujours, quand on est éducateur au sens large, qu'on soit professeur, parent, grand-parent, il faut avoir ça en tête. Comment donner l'envie, le plaisir, la fierté.
Olivier Houdet, quand l'enfant est anxieux, ressent la peur de la punition, quand il a peur d'échouer, il apprend moins bien.
Absolument. Et ça, je peux vous dire aujourd'hui, c'est démontré scientifiquement. Dans mon prochain livre qui paraît sur de Freinet, Montessori et Piaget aux sciences cognitives, j'évoque notamment ces études réalisées tant chez l'animal que chez l'humain qui montrent qu'en ayant peur, on n'apprend pas. Et ça, il faut le savoir, on apprend très mal. Donc si les évaluations sont vécues comme des sanctions, on n'apprend pas. Et ce qui vient d'être fait dans les classes évaluées au niveau initial, c'est très bien. Dès l'instant, le professeur accompagne cela par une visualisation individuelle du progrès que l'enfant peut faire. Donc transforme cette évaluation en point de départ, comme on le ferait chacun dans la vie. Mais avec la peur, on n'apprend pas. C'est connu depuis 30 ans, behaviorisme sur l'animal. C'est démontré aujourd'hui sur l'humain. Il faut surtout éviter la peur, c'est contre-effectif.
Alors Gilles, sur notre page Facebook nous dit « Je ne suis pas d'accord avec votre postulat que l'apprentissage doit être un plaisir. La difficulté à atteindre un objectif, un savoir, doit être aussi appris par le vécu. Je vois trop souvent aujourd'hui en entreprise de jeunes collaborateurs abandonner une mission, un sujet à la moindre difficulté. »
Ça, c'est autre chose, c'est la persévérance. Ça fait partie des émotions subtiles qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec votre collègue. L'effort peut être tout à fait positif et on aime faire un effort. Mais faire un effort sous la contrainte et la peur, n'est pas démontré scientifiquement comme ayant un effet pédagogique.
Et Gilles n'est pas encore un collègue, c'est un internaute.
J'ajouterais que les succès faciles ne procurent pas forcément du plaisir. Ce qui donne du plaisir, c'est justement le sentiment d'avoir surmonté une difficulté à sa portée, mais qui nous challenge quelque part.
Réduire le signal d'erreur dans le cerveau que j'évoquais tout à l'heure, il y a un vrai plaisir, mais ça n'empêche pas qu'on fait un effort, que c'est difficile, qu'on utilise son cortex préfrontal, ainsi qu'on le démontre. Donc non, c'est une... Là, pour le coup, c'est un petit neuromythe qu'évoque votre auditeur.
Bonjour Martine.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission D'où appelez-vous ?
J'appelle des Côtes d'Armor, à Lannemaudet, à côté de Paimpol.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour ?
C'est-à-dire que j'ai d'abord vu sur Facebook ce matin cet article sur la violence. Mmh. Et moi, je veux simplement vous dire que les enfants, au départ, ne sont pas violents. C'est à nous de leur apporter quelque chose. Ils attendent énormément des adultes. Et moi, ancienne enseignante, je peux vous dire qu'un enfant sur qui on porte son intérêt est prêt à tout vous donner. Voilà. Et par l'approche de la culture, par le théâtre, par l'art, par la fréquentation dans les musées, les enfants sont prêts à aller avec vous jusqu'au bout.
Olivier Houdet.
Oui, tout à fait d'accord avec votre auditrice cette fois. Une fois de plus, je fais état dans le livre « Apprendre à résister » des données sur le bébé, la morale chez le bébé. Je vous indique simplement les résultats principaux. Les bébés préfèrent visuellement, donc avant même l'apparition du langage, les gentils aux méchants sur de petites vidéos, dessins animés très simplifiés. Ils préfèrent les scènes altruistes que l'inverse. Et donc, les fondements de l'éthique et la morale existent chez le bébé très tôt. Ce sont maintenant des données généralisées dans beaucoup de laboratoires. Ce qui veut donc dire que, en effet, je dirais avec votre auditrice, Rousseau avait raison. L'homme naît bon. La société peut le corrompre. Néanmoins, la société ne sera jamais idéale. Nous ne sommes pas dans une utopie. Il faut donc donner au cerveau des mécanismes de résistance aux automatismes plus violents et négatifs qui pourraient venir des réactions de l'enfant face à une situation traumatisante ou simplement d'imitation de la violence d'autrui. Mais c'est un vrai problème, la violence. On en parle dans l'actualité par les exemples extrêmes et mondiaux comme le terrorisme, mais il y a aussi beaucoup de micro-violences à l'école.
Qui sont des freins à l'apprentissage, évidemment.
Voilà, évidemment, c'est la peur. Et une peur beaucoup plus tacite, dont on ne parle pas. Il y a une sorte de silence, parce que l'enquête que l'on évoque, la journaliste dit bien que, en un premier temps, les élèves disent... Non, on est bien à l'école. Et c'est en grattant un peu qu'ils expriment ces micro-violences. Et les actes de violence doivent être réprimés ou en tout cas anticipés par une résistance cognitive et une fois de plus, une pédagogie du regret. Il faut anticiper le regret du mal que l'on peut faire aux autres. Et il y a, pardonnez-moi, dans le cerveau, une région qui sous-tend l'aversion à faire souffrir autrui. Vous comprenez qu'on est au cœur du problème.
Merci beaucoup Martine de nous avoir appelé. Bonjour Anne, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Bonjour Anne, vous appelez d'où ?
J'appelle d'un petit village, Fontaine-sous-Jouy, près de Passy-sur-Eure, dans le département de l'Eure, en Normandie.
Bienvenue. Alors vous avez été institutrice pendant 40 ans.
Oui, quasiment, oui. Oui. J'ai beaucoup enseigné en école élémentaire et notamment en cours préparatoire et cours élémentaire première année, donc pour l'apprentissage de la lecture. J'ai fait de nombreuses recherches avec le groupe de l'école moderne qu'on peut résumer à la pédagogie Freinet, et j'ai beaucoup travaillé sur les mécanismes de l'apprentissage de la lecture, et un des gros freins à l'apprentissage, notamment de la lecture, c'est la peur. Et la peur d'apprendre, parce que un enfant, quand il apprend, se met en danger, puisqu'il remet en question les acquis précédents. Pour l'apprentissage de la lecture, s'il a appris, mon prénom Anne, il y a un A suivi d'un N, mais dans maman, on voit A suivi d'un N, et c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est très déstabilisant l'apprentissage, dans toutes les matières d'ailleurs. Du coup, un enfant qui n'est pas assez rassuré par son entourage, qui n'a pas assez de confiance et de bienveillance autour de lui, refusera d'apprendre. Donc ce n'est pas, il n'y a pas des enfants qui aiment apprendre et d'autres qui n'aiment pas apprendre. Je crois qu'il y a des enfants qui sont très curieux et très en confiance, et il y a d'autres enfants qui se refusent d'être curieux parce que ils ont trop peur, ils ont vraiment trop peur, ils ne sont pas assez rassurés.
Très bon témoignage d'Anne, Olivier Houdet.
Oui, absolument. Et vous évoquez la lecture. Alors là, il faut faire attention simplement. C'est que Freinet avait préconisé la méthode globale, s'inspirant de Crowley en Belgique. Or, on sait aujourd'hui que précisément pour rassurer les enfants, pour qu'ils aient une sécurité affective dans le progrès vers la lecture et la littérature, il faut une méthode plus syllabique, qu'on appelle phonémique, de correspondance systématique entre les lettres et les sons. Et il faut vraiment que l'enfant avance petit à petit, pas à pas dans la lecture, pour qu'il ne soit pas effrayé, par exemple, comme vous le disiez, par des confusions ou des mots qu'il ne comprend pas. Et c'est vrai qu'on a oublié cela. Là, je lis France Inter dans le studio. Mais si je ne savais pas lire, je serais inquiet. Je me demanderais, mais de quoi s'agit-il? Et pourquoi tous ces mots se ressemblent? Donc c'est vrai qu'on oublie que l'entrée dans la lecture doit être faite très délicatement pour que cela soit associé au plaisir des lettres et des mots.
Anne?
Oui.
Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire
Olivier
Houdet?
Radicalement à l'opposé de ce que vous dites, je suis d'accord sur beaucoup de choses, qu'il faut évidemment que l'enfant analyse la langue, c'est-à-dire travaille sur les phonèmes, comment s'écrivent les sons et tout, mais je suis radicalement à l'opposé. D'abord, ça n'était pas une méthode globale, ça n'est pas une méthode globale, c'est une méthode d'écriture-lecture, c'est-à-dire que l'enfant utilise la langue dans les deux sens, dès le début, dès les premiers jours. Au début, on lui écrit les mots, après ça, c'est lui qui les écrit parce qu'il les connaît, et en même temps, il travaille sur les sons, il analyse la langue. Donc c'est un sans arrêt, un aller et retour dans tous les sens, entre l'enseignant, l'enfant, l'enfant et ses copains, etc. Et ensuite, il n'est pas question de revenir à une méthode d'apprentissage du genre méthode Baucher, qui ressemble quand on faisait faire on faisait faire les mouvements de natation aux enfants sur un tabouret, et puis après on les lâchait dans l'eau en disant débrouille-toi. La méthode qui fonctionne beaucoup mieux, c'est celle qui consiste à mettre l'enfant à la piscine, puisque j'ai beaucoup travaillé sur cet apprentissage-là également. On le met dans l'eau, sans bouée, mais il se tient. Et là où il n'a pas pied, parce que on change d'univers, c'est comme la lecture. On le laisse faire plein de petits jeux tout, et puis à un moment donné, on lui dit, ben tiens, tu vas mettre la tête sous l'eau, et puis tu vas voir, et s'il est assez en confiance, il va accepter de le faire. Et ça va devenir un jeu. Et donc il est dans l'eau, il est en train de baigner dedans. Et pour la lecture, c'est exactement la même chose. Il faut absolument que les enfants baignent dans la lecture, baignent dans l'écriture, mais qu'ils apprennent tous les codes en même temps. Et ça n'a jamais été une pure méthode globale, la méthode Freinet. C'est une erreur gravissime.
Anne, Héloïse Lhérité aimerait vous répondre.
Alors deux petites choses, une chose sur la lecture, l'autre chose sur la peur d'apprendre. Sur la lecture, il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'il faut travailler à la fois sur le décodage et sur la compréhension. Maintenant, travailler sur la compréhension, ça passe pas nécessairement, madame, par la méthode globale ou par une vision des mots de manière globale. Ça passe beaucoup, par exemple, par la lecture d'histoires par les parents à la maison, s'ils peuvent le faire, ou par les enseignants qui devraient instaurer ça comme rite tous les jours. Je passe parce qu'on doit accélérer sur la peur d'apprendre. Alors là, j'aime bien votre comparaison entre l'apprentissage de la natation et les apprentissages scolaires. Ce qui est certain, c'est que on jette pas un enfant dans un grand bain comme ça. On doit y aller petit à petit. Il y a un psychologue assez connu qui s'appelait Lev Vygotsky qui parlait de la zone proximale de développement. Ça qualifie cet espace de progression auquel l'enfant peut accéder avec de l'aide. Ça lui est accessible, mais ça représente une difficulté malgré tout pour lui. Si on demande à un enfant qui n'a pas appris à décoder, à lire une phrase, c'est angoissant, ça le met en panique et effectivement, ça risque de le bloquer pour des apprentissages prochains.
Olivier Houdet, votre réponse
oui,
à Anne?
suis tout à fait d'accord avec ce que Anne de Sciences Humaines, la rédactrice en chef de Sciences Humaines vient de dire. D'abord, il ne faut pas faire d'analogie trop hasardeuse. Il n'a jamais été démontré qu'on pouvait rapprocher ainsi directement apprendre à nager, apprendre à lire. Par ailleurs, ce qui est très critiqué, c'est la méthode de Jean Foucambert des années 80, qui est la méthode idiovisuelle, où il fallait deviner à partir d'un mot, voire d'une phrase, le sens des mots sans donner à l'enfant la clé pour décoder les lettres et les sons. Donc c'est cela qui peut créer de l'angoisse. Et par ailleurs, je crois que tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut à la fois le niveau local et le niveau global. Il faut des lettres, des sons, des correspondances entre les uns et les autres, des phrases et du texte, ce qu'on appelle une méthode mixte. Mais la méthode mixte ne doit pas oublier le décodage graphophonologique, ce qui crée de l'illettrisme massif et pour le coup grave.
Merci beaucoup Anne de nous avoir appelé. Questions-réactions au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook.
I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So honey, don't let go. Of what you know of me. I am dressed to kill. And my old skin, and my old skin. Save me from the same primordial sin that's deep within. Every time them hungry waves come dancing in the sand, please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go. Of what
Asaf Avidan, My Old Pain.
Comment s'appellent les habitants de Cannes?
Les canailles?
Pardon?
Grand bien vous fasse.
Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année.
Sur France Inter.
10h42 et ce matin on se demande, on s'intéresse aux grands piliers de l'apprentissage. Olivier Houdet, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie. Quels sont les grands ressorts de la motivation chez les enfants? Alors d'un côté, la motivation interne, la motivation de l'enfant qui agit par plaisir, c'est ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque, c'est ça?
Oui, alors les deux sont très reliés parce que le cerveau n'est pas enfermé sur lui-même, le cerveau est dans un contexte social et culturel, donc il y a d'abord la motivation endogène qui vient de nous-mêmes par des circuits très précis de la motivation qui sont liés à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le défi qu'il y a dans le jeu, par exemple, ou si une leçon crée vraiment un défi, l'enfant sera motivé, ses régions émotionnelles vont s'engager et par des circuits d'activation proches ou distantes vont déclencher la réflexion, l'apprentissage. Mais le rôle du professeur est de créer ce contexte de motivation. Et donc là, il faut d'abord à l'école qu'elle soit aussi, qu'elle vienne de l'extérieur, qu'elle soit exogène. Et j'aimais beaucoup votre réflexion tout à l'heure sur Vygotsky et la zone proximale de développement, c'est-à-dire que le prof en interaction avec un élève ou en groupe, va porter les élèves à un certain niveau qu'ils n'auraient pas tout seuls, et donc va créer cette motivation à apprendre qui ensuite deviendra intériorisée et endogène, ce que Vygotsky appelait le langage, d'abord extérieur, puis régulateur. Eh bien, il y a aussi une émotion, une motivation d'abord extérieure et qui ensuite devient la motivation régulatrice de tous nos comportements.
Cette motivation intrinsèque, endogène, elle répond à quels besoins, Héloïse Lérété, à des besoins d'autonomie, de compétences,
oui, tout
d'appartenance
ça peut
sociale
être, voilà, ça peut être tout ça. Ça peut être pour se sentir grand, ça peut être pour se sentir fort, ça peut être parce que ça facilite les rapports avec les autres. Et puis voilà, alors c'est vrai qu'elle n'est pas toujours spontanée, mais qu'on peut c'est aussi l'une des grandes découvertes, c'est de se dire, avant on a opposé hein, schématiquement, hein, intrinsèque, extrinsèque, en gros soit ça vient de l'enfant, soit c'est la carotte ou le bâton, eh bien non, aujourd'hui on se rend compte qu'on peut stimuler la motivation intrinsèque. C'est vrai pour l'école, c'est vrai aussi dans d'autres domaines, comme par exemple dans le domaine médical, quand il faut aider quelqu'un par exemple à sortir d'une addiction.
Et dans l'entreprise.
Alors à partir de quel moment la motivation par la contrainte devient-elle contre-productive?
Alors, les contraintes sont très bien. Si vous parlez à un artiste, par exemple, un peintre ou un sculpteur, il vous dira que les contraintes l'aident. Les contraintes sont très importantes pour créer, pour apprendre. Mais ces contraintes doivent être structurantes, associées à l'effort qu'on évoquait tout à l'heure. Si la contrainte est associée, c'est très simple, si la contrainte est associée à la peur, eh bien, la contrainte a l'effet inverse. Et notre cerveau est très susceptible, attention, très fragile parce qu'on peut le manipuler, mais aussi le cerveau de l'enfant et le nôtre adulte est très susceptible. Donc, il suffit parfois de très peu de choses sans que le prof s'en rende compte ou un contexte émotionnel qui atténue la motivation et qui crée un blocage, voire une phobie scolaire dans les cas extrêmes.
Des outils simples pour motiver les enfants quand on est parent, quand on a affaire à des enfants peu motivés, qui ont du mal à se motiver.
Coup de pied au cul, oui.
Julien Foïs, Olivier Houdet.
Non, je ne préconiserai pas ce qui vient d'être évoqué, même si chaque parent est libre en conscience, comme vous l'êtes avec votre jeune garçon de 1 an, qui se réjouit d'être à l'école quand vous êtes ici. Ou en crèche, pas le coup de pied au cul, bien sûr. D'abord, pas de violence aux enfants.
Non, mais évidemment.
Et vous plaisantiez, je le sais, mais moi aussi. Non, au contraire, il faut écouter l'enfant. Alors, vous savez que les fondateurs de l'éducation, des sciences de l'éducation, John Locke, Rousseau au siècle des Lumières, ensuite Montessori qu'on évoquait tout à l'heure, et puis tous les professeurs dans leur classe qui font bien leur travail, savent qu'il faut écouter l'enfant, partir de ce qu'on appelle l'élan vital de l'enfant. L'élan des enfants fuse dans l'action, tout le monde le voit, c'est extraordinaire l'élan d'un jeune enfant, donc ne tuons pas ça. C'est un peu la curiosité que vous évoquiez tout à l'heure avec les travaux de Stanislas Dehaene. L'élan, la curiosité, tous les enfants en ont, c'est rare. Et des enfants qui n'auraient pas cet élan, il faut les identifier, les aider, les écouter et comprendre. Et là, les psychologues scolaires, plus spécialisés pour les enfants en difficulté, peuvent intervenir à condition qu'ils sachent bien aujourd'hui comment fonctionne le cerveau et quelles sont les découvertes des sciences cognitives sur l'apprentissage.
Héloïse Lérété.
J'ajouterais que quelquefois, il est bon de déscolariser les apprentissages, c'est-à-dire qu'on apprend quelquefois et souvent, même le plus souvent, de manière non scolaire. On peut apprendre la droite et la gauche en mettant le couvert. On peut apprendre à écrire en écrivant une carte postale à son meilleur copain. Et pour les parents, je pense notamment à eux, je crois que la motivation passe aussi par beaucoup de ruses éducatives et sortir de la pression scolaire, qui est très importante aujourd'hui, et passer par d'autres voies au quotidien. quotidien, à la maison, dans les tâches quotidiennes.
Et Véronique, sur notre page Facebook, va dans votre sens. Elle nous dit, pour donner le goût d'apprendre aux enfants, eh bien, faut les sortir dehors, dans la nature, dans les musées, les faire voyager, les randonnées, les livres, etc. Alors, un autre grand pilier de l'apprentissage, c'est l'attention. C'est un facteur essentiel quand on apprend, évidemment, Olivier Houdet. Oui. Et quels sont les grands ennemis qui volent l'attention des enfants ?
Alors, c'est la distraction, bien sûr, le grand ennemi. Donc, il faut déjà apprendre à l'enfant ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. On en reparlera tout à l'heure, je crois. C'est-à-dire inhiber les distracteurs, qu'ils soient internes, c'est-à-dire une autre pensée, une autre émotion, ou extérieure, du bruit, ou quelque chose qui visuellement impressionne l'enfant. Ensuite, il faut demander à l'enfant comment il va s'y prendre. Ce qu'on appelle la métacognition. La façon dont l'enfant va penser aux étapes de son propre apprentissage. Et ensuite, la planification. Donc, attention, métacognition, planification, et lors de la résolution de l'apprentissage, il faut en même temps, et c'est très difficile pour le cerveau, inhiber tous les distracteurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attention, qui devrait être en fait un programme pour les professeurs des écoles en tant que tel dans leur formation, parce que l'attention est comme une colle invisible. Elle est absolument utile à tout, mais elle est invisible. Et on oublie l'attention. Or, l'attention, c'est le facteur absolument essentiel, colle invisible et déplaçable, multilocalisé.
Alors, un enfant doit faire attention à ses automatismes, hein, vous le disiez tout à l'heure. L'enfant doit faire appel à ses capacités d'inhibition, résister à des réponses impulsives, trop rapides. Vous prenez par exemple l'exemple de la faute d'orthographe que font souvent les enfants. Oui. Je l'ai mange avec un S.
Absolument. Mange avec un S, ils entendent le mot lait. Après lait, ils ont appris on met un S. C'est surrépété à l'école. C'est ce qu'on appelle dans le cerveau une heuristique, c'est-à-dire une stratégie très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. L'exemple que vous venez de citer, ça ne marche pas. Il faut inhiber l'heuristique dans son cerveau grâce au cortex préfrontal pour activer l'algorithme. Et l'algorithme, c'est l'algorithme orthographique selon lequel, et les enfants souvent le connaissent déjà, on conjugue le verbe avec le sujet. Et vous pouvez aussi avoir des exemples en mathématiques. Dans mon livre, je donne des exemples chez le bébé, pour la recherche d'objets disparus, où il doit inhiber des heuristiques erronées, pour l'enfant, comme vous l'évoquiez, en orthographe ou en maths, Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-t-il de billes ? D'une seule voix, les enfants répondent 30. Ils ont entendu 25, le mot plus, 5, ils additionnent. Or, si vous redéroulez, ou si vos auditeurs écoutent en replay, ils vont refaire le problème, ils se rendront compte qu'il faut faire une soustraction. 25 moins 5 égale 20. L'enfant connaît les deux. Il connaît l'addition, il connaît la soustraction, mais ce qui lui manque, c'est dans son cortex préfrontal, le mécanisme de switching, d'inhibition de l'addition pour activer la soustraction dans une situation où on ne veut pas l'employer. Et ça résonnerait pour vous adultes, on a tous des biais de raisonnement, des décisions irrationnelles qui sont liées à ces heuristiques.
Et vous appelez d'ailleurs, Olivier Houdet, à une pédagogie du cortex préfrontal.
Oui,
concrètement,
absolument.
Comment on s'y prend à l'école ou à
Alors,
la maison ?
Je vous donne des exemples très simples et comme vous le disiez, on peut le faire tant à l'école qu'à la maison. Vous jouez à 1, 2, 3 soleil. Il faut courir et il faut être capable, au mot soleil, d'inhiber sa course et de s'arrêter. Vous jouez à Jacques a dit. Quand Jacques a dit, on fait l'action, on saute sur la table ou on court dans une direction. S'il n'y a pas Jacques a dit et qu'on dit faites ceci, vous devez inhiber l'action. Vous pouvez aussi jouer à des tas d'autres petits jeux de ce type où on inverse la règle et ça exerce le cortex préfrontal. Mais on peut aussi le faire, je l'ai fait avec des polytechniciens pour les faire inhiber leurs automatismes de raisonnement alors qu'ils ont parfaitement les algorithmes mathématiques. Par ailleurs, donc c'est vrai de l'enfant, c'est vrai de l'adulte.
Eh bien, tu vois bien que tu le sais. Tu l'écris à ta façon.
C'est pas extrêmement grave de pas arriver à tout, hein.
Si c'est une école de la patience, c'est la pédagogie. Il faut pas se précipiter.
On a trouvé ça.
Avec un enfant, rien n'est jamais définitif parce qu'il est en formation. Donc, ne jamais porter des jugements définitifs, ne jamais dire celui-là, il n'y arrivera pas. Un enfant peut passer une situation d'échec, une situation de réussite. Ça, c'est l'expérience qui me l'a appris.
Un extrait du documentaire « Mon maître d'école » d'Émilie Théron en 2016. Alors, les enseignants jouent évidemment un rôle essentiel pour cultiver ou inhiber le plaisir d'apprendre, pour aiguiser notre curiosité, Héloïse Lérété.
Bien sûr, on a beaucoup parlé de neurosciences ici, mais chacun sait que les petits qui arrivent à l'école, ce ne sont pas des cerveaux sur pattes. Ils sont un bain culturel, un bain social. Et puis, ils arrivent dans une classe avec des méthodes, avec des professeurs, avec des encadrements. Et Et l'éducation est une chose complexe sur laquelle beaucoup de disciplines des sciences humaines ont leur mot à dire. C'est la raison pour laquelle justement hein, Jean-François Dortier a fait aussi dans ce numéro un petit papier sur les grandes raisons de réussir ou rater ses études selon les différentes disciplines. Et sur la pédagogie, évidemment, il existe énormément de travaux qui montrent le rôle du prof, hein, ce qu'on appelle l'effet prof. Il est fondamental, évidemment, il faut qu'il ait la flamme. Et il faut évidemment qu'il aime les enfants.
Et on a tous eu des professeurs extraordinaires. Moi, je salue notamment Simone Espougne, professeur d'histoire, ou Patrick Santamaria, professeur d'économie. Mais oui, vous riez, Julien, mais c'est des gens qui ont suscité...
Je pense à tous ceux que vous n'avez pas cités, qui ont dit les questions.
Il y en a beaucoup. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour.
Alors, on termine avec vous. Oui. Dites-nous un petit peu comment vous avez donné le goût d'apprendre à vos élèves.
Ah oui, alors moi j'étais formateur dans un CFA d'hôtellerie-restauration. Mmh. Tous les élèves n'arrivent pas dans ces filières-là par passion. Souvent, c'est qu'ils fuient l'enseignement en général des collèges et des lycées parce que ce n'est pas des systèmes qui leur convient. Ça ne suffit pas pour dire qu'ils sont nuls, qu'ils sont mauvais, qu'ils ne réussiront rien. Alors nous avions quelques collègues et moi choisi cette méthode-là. Quand ils arrivaient chez nous, ils disaient « Nous, on veut bien faire de la cuisine ou du service ou d'hôtellerie. » Mais alors l'enseignement général, donc on avait pris l'habitude de leur faire faire des tests d'un niveau correct, on les prenait pas pour des nœuds, qu'il y ait quand même un peu de consistance, de manière à ce que l'ensemble ou la majorité des élèves enregistrent des notes à la moyenne ou au-dessus de la moyenne et des appréciations positives. De ce fait, les parents disaient « Mais comment vous avez fait ? Il a jamais travaillé à l'école, elle a jamais rien fait, et voilà que ça se réveille. » Et pour terminer, j'ai une anecdote qui me plaît beaucoup. C'est un peu le couronnement de mes années d'enseignant. Un jour, j'avais un petit gars que j'avais malheureusement moi-même qualifié de pas doué. Je leur rends leur bulletin de quinzaine, comme ils étaient en alternance, ils me quittaient 15 jours, ils revenaient 15 jours. Il attend que ses copains partent, il me dit « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. » J'ai qu'est-ce qui vous arrive ? Monsieur, depuis que je suis à l'école, on ne m'a jamais mis sur un bulletin, c'est bien. » Et le gamin avait les larmes aux yeux. Et de ce gamin qu'on avait jeté depuis l'enseignement primaire, c'est un jeune homme qui est devenu, qui a une belle place dans la profession maintenant, et qui a réussi grâce peut-être à ce « enfin, c'est bien ». Voilà.
Merci beaucoup, Christian.
C'est un petit sésame pour lui.
Merci beaucoup, Christian. Merci d'avoir témoigné ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. Merci beaucoup, Olivier Houdet, d'être venu ce matin. Je recommande vraiment Apprendre à résister aux éditions Le Pommier. Merci beaucoup, Héloïse Lérétier. Le dossier Comment apprend-on est disponible dans le Sciences Humaines de septembre-octobre. Tout de suite, Passons Genre avec Julia Foïs.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Je suis un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon ?
T'as menti ?
Bah oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Alors, toutes les semaines, Julia Foïs, vous nous amenez dans les méandres du féminin, du masculin, voire des deux. Alors, parce que le genre, c'est vraiment pas votre genre. Enfin, depuis le début de l'émission, je sens chez vous une perplexité. C'est difficile à dire.
Ouais, mais en fait, j'étais toute je me disais quand même Ali, il a des seins. Non, mais c'est vrai, cette qualité d'écoute, cette empathie, cette sensibilité naturelle, ouais, il en faut une sacrée paire quand même. Hein. Non, pardon, j'essayais juste de voir l'effet que ça fait de vous doter d'attributs physiques féminins pour donner la mesure de vos qualités morales quand ces qualités sont considérées comme hautement féminines, vous voyez. Un peu comme quand on dit d'une femme qu'elle a des couilles, quand on veut signifier l'audace, le courage, la hardiesse au combat. Exemple, Marlène Schiappa sur la PMA. Elle a des couilles. Mauvais exemple, elles ont dû tomber entre-temps, splatch, par terre, à plat les baloches, crever les gosses. C'est du québécois, les gosses, hein. Enfin bref. Vous avez l'image, parce que moi, oui, tellement qu'elle me pique les yeux, cette expression, elle me gratte l'oreille, elle me dérange un petit peu la cervelle. Alors je sais bien qu'on parle de gonades métaphoriques, de roupettes imagées, que la formule s'est tellement banalisée qu'elle s'est, comment dire, vidée de sa substance. N'empêche, c'est pire. À quel moment, je dis bien à quel moment et qui a décidé que ces deux excroissances esthétiquement assez conceptuelles, une fois détachées de leur contexte, allaient renfermer dans leur habitacle tout ce que l'humanité pouvait porter de bravoure, de cran, de fermeté en son sein, et le sein, on y revient. Enfin bref.
Et donc à quel moment ?
Ah oui, pardon. À quel moment ? C'est assez vague en fait, hein, figurez-vous. A priori, théorie, ça s'est passé à peu près au moment où, en Grèce, Aristote a décrété que les femmes étaient, je cite, des mâles imparfaits, qu'en Chine, on a décidé de faire des festins de testicules pour doper les prouesses sexuelles de toute une aristocratie en armure, et ce, pendant qu'à Rome, on émasculait des adolescents qui, ainsi privés de toute possibilité priapique, pouvaient garder les femelles qui, elles, sont évidemment possédées par le démon de la chair, c'est connu, et notoirement décérébrées, les gourdes, qu'elles ont donc bien besoin d'eunuques pour veiller sur elles, et que comme ça, la boucle, elle est bouclée, les vaches sont bien gardées, et le monde distinctement divisé en deux, ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont couillus, ceux qui ne le sont pas.
Couillus.
Oui, couillus, mot qui apparaît dans la langue française au XVIe siècle et qui désigne donc au sens figuré tout comportement considéré comme courageux et ou audacieux. Le privilège de quelques-uns, notez bien. Et quand ils l'ont, ils y tiennent, au point que les mignons d'Henri III, tout poudrés, fardés, peinturlurés qu'ils soient, portaient des talonnettes, oui, des grosses fraises toutes joufflues autour de la gorge, mais se rembourrent la braguette pour bien montrer qu'ils en ont dans le pantalon. Eux, on en a, on en est fiers, on les exhibe, on les palpe, on les remonte, on vérifie. Ouf, elles sont là, oh oui, elles sont là. Alors toi, femelle, avec ton ventre plein de vie, si tu crois que tu me fais peur, carrément même pas, parce que sans moi, eh ben t'es rien. Ta paire d'ovaires, elle sert à rien. Non, parce qu'évidemment, le nœud du problème, si je puis me permettre, il est bien là. La tête perdue ne périt que la personne, les couilles perdues périraient toute nature humaine, disait Rabelais. Devant cette mystérieuse capacité qu'ont les femmes à enfanter, il a fallu trouver quelque chose, voire deux, quelque chose qui, en son sein, son habitacle, donc même tout petit, conserverait la clé de l'humanité, l'origine du monde, celle de l'homme et de la femme, au passage, les couilles donc. Et ça, pardon, désolé, mais oui, il faut être un homme, un vrai, pour en avoir, non mais...
Passons genre la chronique sévèrement burinée, pour ne pas dire plus, de Julia Foyce, qu'on retrouve mercredi prochain. Demain, on s'intéresse à l'art de vivre à la suédoise, ça s'appelle le lagom, prononcé largom, cet art suédois du ni trop peu, une approche de la vie qui repose sur la recherche de l'équilibre personnel par la pondération, se satisfaire de ce que l'on a, moins consommer, se réjouir des plaisirs simples de l'existence. Vous êtes peut-être adepte de cet art de vivre suédois sans le savoir. Questions, témoignages, grand bien vous fasse, @radiofrance.com.